vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous, nous reprenons aujourd'hui la série de l'histoire, de la brève histoire de l'architecture du XXe siècle à travers quatre figures majeures. Et nous avons fait la dernière fois, après un préambule, l'architecte allemand-américain Ludwig Mies van der Rohe. Et aujourd'hui, nous allons revenir en France avec un architecte qui est suisse et français, qui s'appelait Édouard-Charles Jeanneret et qui est connu sous le pseudonyme de Le Corbusier. Alors, Mies van der Rohe, bref rappel de cet architecte, donc ce que j'avais mentionné, c'était ses origines avec son enfance dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle et contrairement à ce que l'on pouvait penser, il y avait dans cette architecture à la fois très structurelle, très transparente et aussi enrichie de détails, les sources de son architecture qui est faite d'une unité de style. Et ce qui est vraiment caractéristique, et on peut dire aussi, entre guillemets, classique, c'est l'unité de style de cet architecte de toute sa vie, et d'autant plus remarquable qu'il ne se copie pas lui-même, qu'à travers cette unité, il trouve toujours un changement d'expression suivant la taille de ses bâtiments, allant d'un grand musée ou de tours à Chicago ou à Toronto, et aussi d'une maison individuelle, ce qui est le propre du génie, c'est-à-dire le même style, et d'arriver à pouvoir avoir différents types d'expressions à travers une reconnaissance que l'on peut avoir. Alors ça, c'est pareil, on peut dire en musique, en peinture, en sculpture, et c'est le propre des génies. Alors Le Corbusier, c'est assez différent. Alors, avant de parler de son enfance, je veux justement faire l'opposition avec Mies. C'est que Le Corbusier est à la fois, on peut dire, on peut le reconnaître à travers ses différentes œuvres, mais il y a une, on peut dire, il n'y a pas une unité de style. On peut dire qu'il y a différents types d'expressions. Alors, le parallèle que l'on peut faire au niveau des artistes du XXe siècle, ce serait évidemment Picasso. Et d'ailleurs, leur relation entre tous les deux, on en parlera plus tard, mais n'était pas très harmonieuse, surtout qu'on avait un architecte qui tombait dans une période où l'architecture n'est plus le premier des arts et avec difficulté, et Picasso est quelqu'un qui a un succès à la fois de reconnaissance, bon, Le Corbusier aussi, mais enfin, c'était quand même on peut dire beaucoup plus dans un milieu professionnel, mais surtout la reconnaissance au niveau pécuniaire, ce qui n'est pas rien, entre le richissime Picasso et un Le Corbusier qui a tiré le diable par la queue tout le long de sa vie. Alors, on a, après le catholique, on peut dire, puriste qui est Mies, on a le protestant. Alors, il est évident que cet éclairage à travers les religions n'est pas sur les croyances personnelles des protagonistes, mais beaucoup plus sur l'imprégnation philosophique, symbolique que portent les religions. Donc là, on a un protestant qui était à la fois un protestant, évidemment, parlant français et avec l'influence française, et qui vit une grande partie de sa vie en France. Alors, autant le père de Mies était un ouvrier du bâtiment, puisqu'il était tailleur de pierre, et Le Corbusier, lui, il est fils d'horloger. Alors c'est intéressant, parce qu'il y a ce côté aussi, montage mécanique, qui est le propre de, on peut dire, d'une manière caricaturale des Suisses, de cette rigueur. Mais en tout cas, il ne baigne pas dans un, on peut dire, dans le milieu de la construction. Mais dans le monde à la fois, de, comme je vous disais, de la précision, mais aussi de l'ornementation, parce que les montres étaient aussi des bijoux, des objets, avec des décorations, et Le Corbusier a une éducation à travers une école d'art et un maître qui s'appelait Le Platonnier, qui, pour lequel il était une sorte de protégé. Et il est il a une formation de dessinateur et de peintre, et d'ailleurs, ce qu'il continuera toute sa vie. Alors, le dessin est propre aux architectes, ou du moins il l'était, mais la peinture n'est pas forcément liée à la pratique de ce métier. Et Le Corbusier, toute sa vie, aura une pratique de peintre, et aussi, alors je ne sais pas si c'est le fait de vouloir ressembler à Picasso et à son succès, comme je vous disais, financier, mais il était peintre à mi-temps ou architecte à mi-temps, puisqu'il travaillait le matin dans son atelier de peinture qui était au-dessus de là où il vivait. Il y avait l'atelier d'architecture. Et il descendait dessiner avec ses collaborateurs dans son atelier, ce qui était assez surprenant. Alors, comme je vous disais, en parlant de Miss, où il y a le même style, Le Corbusier est beaucoup plus dans un rationalisme, on peut dire un rationalisme français. Un rationalisme de la fonction, de la raison, où les bâtiments vont coller par leur forme, par la satisfaction des besoins et la symbolique qu'ils vont exprimer. Ce qui veut dire, dans des termes tout simples, que une église devra avoir l'air d'une église, un musée voilà, être un musée, et à la fois dans sa symbolique et dans sa forme, mais aussi dans son agencement. Si on doit donner une première qualité à l'œuvre de Le Corbusier, c'est d'être justement fonctionnel. Et Le Corbusier n'est pas du tout un formaliste comme certains ont pu le dire, mais c'est quelqu'un qui se soucie énormément de l'usage qui est fait dans ces bâtiments. Et je pourrais dire, même d'une manière de boutade, que la pratique ou la lecture ou la visite de ces bâtiments ou de ces œuvres pourrait constituer la formation d'un architecte, et moi je ne m'en suis pas caché par cela, et je m'en suis bien servi des œuvres complètes de Le Corbusier comme source d'inspiration et de formation. Donc Le Corbusier va faire des bâtiments, comme la plupart des architectes, de différentes fonctions. Il va faire des maisons, il va faire des maisons pour les riches, il va faire des maisons pour les ouvriers, il va faire des immeubles, il va faire des musées, il va faire en fait le couvent de la Tourette, il va faire des églises également, et des bâtiments de bureaux, des logements d'étudiants. Donc son œuvre est très variée et très intéressante, justement, dans la manière dont il va traiter ce sujet, et il va faire une forme. Alors, d'ailleurs, le paradoxe, pour vous parler de sa peinture, c'est que sa peinture, personnellement, je la trouve assez répétitive, et c'est très surprenant de voir, il y a à peu près, on a l'impression qu'il peint le même tableau, à l'opposé de Picasso, qui lui a une grande variété de formes dans toute sa vie. Mais par contre, justement, son œuvre architecturale, et on peut lui en rendre grâce de cette extraordinaire profusion de formes d'intelligence et de créativité va être justement protéiforme et d'une richesse exceptionnelle et de, tout à fait étonnante, et c'est sa qualité propre. Je vous propose de marquer une pause musicale. Alors, je t'ai en train de vous parler justement de la diversité des œuvres de Le Corbusier et aussi la manière dont il a été perçu. Et c'est assez, justement, assez curieux parce que il est connu que par quelques œuvres emblématiques. Alors, d'un côté, des œuvres qui ne me semblent pas justement très caractéristiques, c'est la chapelle de Ronchamp, qui est une sculpture. Personnellement, c'est pas un bâtiment qui m'emballe beaucoup, mais c'est un jugement personnel, parce que ça me paraît assez formaliste et une représentation qui n'est pas forcément celle de la religion. Et puis on parlera justement de l'influence de la religion. Alors pour revenir à la manière dont il est connu aussi pour ce qu'il nommait l'unité d'habitation de grandeur conforme, que l'on appelle cité radieuse, mais c'était pas exactement ça, puisque la cité radieuse, c'était ses plans de ville utopique. Et il est aussi perçu d'une manière négative par beaucoup de détracteurs qui le rendent responsable des grands ensembles de l'après-guerre. Alors là, évidemment, c'est quelque chose qui est complètement faux pour deux raisons. D'abord, c'est que les grands bâtiments d'habitation, ils sont propres à l'époque et donc ils sont construits dans le monde entier. Et ce n'est pas Le Corbusier qui en est l'initiateur. Et c'est d'autant plus faux de le réduire à cela, c'est que le bâtiment, notamment le premier bâtiment qui a été construit à Marseille, est un bâtiment d'une très grande qualité, très innovant sur les manières de vivre, sur la création de loggia et aussi sur une philosophie qui est assez intéressante, où on trouve dans ce bâtiment la salle de sport, enfin ça ressemble à ces condominiums, et aussi il y a des commerces, restaurants, etc., même si tout cela est une école maternelle sur le toit. Donc Le Corbusier avait été fasciné par le paquebot lors d'un voyage dans transatlantique. Et effectivement, le paquebot, il réunit dans un même lieu tous les services possibles. Et donc, l'utopie de Le Corbusier, c'est de créer des sortes de bâtiments paquebots qui soient autosuffisants, donc on peut dire communautaires. Alors là, c'est aussi par rapport à la vision catholique de bâtiments qui sont universels. C'était le cas de Mies van der Rohe. Là, on est sur une vision de la société communautaire. Et là, je pense que l'influence protestante, je dois dire, qui m'avait échappé et qui a échappé aussi certainement à beaucoup d'historiens, mais c'était l'ossature de cette série d'émissions de montrer l'influence souterraine des religions. Et là, on a théorisé par Le Corbusier le principe communautaire, qui est le principe justement d'une minorité que l'on a en France, c'est-à-dire les communautés protestantes qui, du fait de leur, justement, de leur minorité, cherchaient à être autosuffisantes et protégées et refermées sur elles-mêmes, ce qui est le cas de ces unités de vie. Donc, il y a aussi des projets utopiques de Le Corbusier qui ont créé cette légende noire qui était de raser Paris. Alors, on a ça qui revient de temps en temps à la télévision. Il faut dire que c'était Le Corbusier très jeune et était c'est une personnalité ambitieuse et il a réussi très bien d'ailleurs à savoir se servir des médias. Et pour cela, il avait compris qu'il fallait être un théoricien avec des théories qui marquaient l'esprit de son temps. Donc, il avait compris avant beaucoup d'autres cela Et il réussit avec succès en ayant très peu construit, mais créateur de manifestes qui s'appelait Vers une architecture, et aussi ses plans, notamment ce plan dit voisin, où il prévoyait de raser une grande partie du centre de Paris pour le remplacer dans ses immeubles. Alors, il est évident qu'il ne l'aurait jamais fait dans la réalité. Et un des historiens biographes de Le Corbusier, qui s'appelait Monnier, qui était professeur à la Sorbonne, et m'avait dit lors d'une conversation que j'avais eue avec lui, j'avais des relations amicales avec lui, et il connaissait évidemment l'œuvre de Le Corbusier comme personne et bien mieux que moi. Et donc, il m'avait dit qu'il avait remarqué que les récits et les plans excessifs de Le Corbusier, c'était les périodes où Le Corbusier n'avait pas de travail. Et Le Corbusier avait une vie assez chaotique, comme beaucoup d'architectes peuvent avoir. Et quand il n'avait pas de commandes, il avait une sorte de propension à faire des projets extrémistes. Alors, il y avait effectivement ce côté de choquer et d'être connu, mais il y avait aussi certainement une sorte de sentiment de revanche, ou je ne sais pas, je suis pas psychologue par rapport à cela. Et que par contre, quand il avait ces objets, c'est pour ça que sa légende noire est totalement fausse, c'est qu'il était très près de l'utilisateur. Et ces bâtiments sont des bâtiments extrêmement bien pensés. Ils sont pensés, les cuisines sont dessinées, les enfants, je vous parle de la maternelle, mais par exemple, le garde-corps, il y a dans l'unité d'habitation un deuxième garde-corps plus bas pour que l'enfant puisse monter l'escalier. Ce sont des choses que l'on voit rarement. Donc il avait un souci extrême des gens et je pense que c'est une architecture qui est remplie de cette humanité et de cette bienveillance. Donc le procès qui lui avait été fait d'être proche de la collaboration française, et on est allé même dire que Le Corbusier était un nazi parce qu'il avait des projets utopiques, sans voir qu'en fin de compte c'était l'esprit de l'époque et qu'il n'a jamais dénoncé ni des juifs ni n'a jamais eu une participation dans la collaboration, et il n'a pas d'ailleurs construit pour cette période. Donc il y a un très mauvais procès qui a été fait il y a quelques années. Et c'est assez surprenant, et je trouve ça particulièrement détestable de reconstituer à partir de quelques mots malheureux, bon, qui étaient des mots de l'époque, et surtout sur cette vision utopique de l'homme nouveau. Par exemple, il avait participé, jeune homme, à une revue qui s'appelait Plan, dont le rédacteur en chef était Philippe Lamour, qui est quelqu'un qui s'est illustré par tous les travaux sur le bas Languedoc et le Languedoc-Roussillon, l'aménagement du littoral. Et là, ils étaient, à cette époque-là, effectivement, dans cette utopie de l'homme nouveau. Et on trouvait dans ces numéros de plan, effectivement, il y avait un éloge à la fois de Staline, on trouvait aussi un éloge de Mussolini, et aussi, évidemment c'est très gênant, un éloge d'Hitler, mais c'était Hitler avant la guerre, parce que pour ces jeunes gens de cette époque-là, il fallait, après la guerre de 14, créer un homme nouveau. Donc aujourd'hui, on peut refaire l'histoire et dire que c'était un nazi parce qu'il y avait, un article, je ne sais pas si on peut dire à la gloire, mais en tout cas, un article sur Hitler, mais aussi sur Staline. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte, et on peut, il est plus intéressant de regarder justement cette imprégnation humaniste de la religion, probablement de ses parents et de sa famille, et de cette vision communautaire généreuse et chaleureuse que l'on peut trouver dans ces bâtiments. Alors, Le Corbusier, au cours de sa carrière, comme je vous disais, a pu faire tous les types de bâtiments. Moi, dans une émission qui est une émission radio, je n'ai pas la possibilité de regarder et de vous montrer des images, mais vous avez des émissions sur la chaîne, par exemple, Muséum TV, où vous avez la Villa Savoie, qui est une villa qui est visitée dans les environs de Paris, qui peut se visiter. Vous avez aussi la chapelle de Ronchamp, même qui est aujourd'hui en rénovation, mais l'unité d'habitation de la Tourette, l'unité d'habitation de Marseille, mais il y en a trois en France, il y en a une à Berlin, mais il y en a trois en France, une à Nantes, à Rézé, qui est une banlieue de Nantes, et une autre qui est à Briey en Franche-Comté. Et c'est une unité de méditation où j'ai eu la chance de visiter, parce qu'il y avait le jury du prix du livre d'architecture dont je faisais partie, et de dormir dans ces appartements de Le Corbusier, et avec la vue sur la forêt. Et effectivement, c'est des lieux assez magiques, et où il y a des détails absolument extraordinaires, avec un sol souple que l'on ne voit plus aujourd'hui dans les couloirs, pour que même si on court, tous les bruits sont amortis, et une infinité de détails d'une grande qualité. Alors, si on fait le comparatif avec Miss Van der Rohe, et c'est aussi le but de la comparaison de ces quatre architectes dont je traite pour cette histoire du XXe siècle, et de cet architecte qui a traversé le siècle, qui est Le Corbusier, on peut dire que par rapport à Miss, son œuvre n'a pas cette intemporalité. Elle marque son siècle, comme Picasso aussi. On peut distinguer les différentes périodes. Donc il y a des périodes qui sont une architecture puriste, les années 30, et qui va correspondre aussi à ce qu'il va peindre. Et puis on a son architecture qui évolue au fil du temps. Alors elle évolue en passant, on peut dire, d'une forme très intellectualisée, peu construite. Et comme je vous disais, en comparaison avec Miss Van der Rohe, qui lui avait une formation et aussi peut-être un esprit allemand du savoir construire, où ses œuvres sont particulièrement détaillées et extrêmement construites. Et on peut dire que Le Corbusier, dans ses premières œuvres, on voit le génie de la forme, le génie de l'usage, mais sur un plan de la construction, c'est un peu catastrophique. Donc la Villa Savoie, elle a été refaite plusieurs fois, et on peut dire qu'elle est mal construite. Et il y a aussi la cité Frugès à Mérignac, à côté de Bordeaux, qui a été restaurée et que vous pouvez visiter, et qui est aussi tout à fait étonnante, mais là aussi, ce sont des objets un peu puristes, et on peut dire que le savoir-faire constructif était absent, et là aussi il y a eu des modifications et des restaurations très importantes. Alors, ça c'est dû, je veux dire, certainement à une approche à la fois, on peut dire, naïve de l'architecture comme objet, et comme une approche puriste, et moins constructive. Mais Le Corbusier a su tenir compte de l'expérience, et au fur et à mesure de sa vie, on voit ses œuvres qui deviennent plus construites. Alors, plus construites, ça veut dire les matériaux sont visibles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des murs blancs ou des murs colorés où on ne voit pas très bien en quoi c'est construit, quels sont les matériaux, apparaissent dans des œuvres plus des années 50, par exemple. Alors, à la fois dans l'unité d'habitation, donc de l'après-guerre, à Marseille, l'emploi du béton, la préfabrication et ce sont des bâtiments qui tiennent bien mieux dans le temps, et notamment les villas Jaoul qui sont des villas faites en briques avec l'utilisation de la voûte catalane, qui est un système ancien de construction, mais qui est utilisé avec le béton et dans un rapport de où la construction est apparente et lisible. Mais Le Corbusier aussi a fait des œuvres moins connues en utilisant de la pierre, et notamment une maison mate qui est construite, on peut dire, comme nos fermes, où on voit à la fois toute la qualité de l'architecte, mais aussi la possibilité d'utilisation des matériaux, on peut dire, traditionnels et aussi dans une qualité constructive. Donc, la dernière partie de Le Corbusier va être, on a appelé ça le brutalisme, mais en fait, moi, je penserais, on est plus dans la construction, ou on peut dire la bonne construction, une construction qui vieillit dans le temps parce qu'elle n'est pas revêtue de matériaux fragiles. Alors, c'est un débat que l'on retrouve dans mon émission, qui est celui de la morale et celui de du bien construire à travers l'architecture, et une critique que je fais bien souvent sur les matériaux et sur les usages qu'il en est fait aujourd'hui, avec notamment ces revêtements par l'extérieur, avec l'isolation par l'extérieur, où on crée des bâtiments qui sont peut-être séduisants sur le plan de la forme, mais qui ressemblent justement à ces bâtiments des années 20, des années 30 de Le Corbusier, mais qui ont été refaits plusieurs fois et qui n'ont pas tenu des années. Et c'est un reproche que je fais aussi à notre époque de ne pas se servir l'expérience du passé. Donc, je vais terminer sur cette émission en vous recommandant dans des lectures sur Le Corbusier. Donc, il y a un architecte français et historien, Cohen, qui est mort récemment. Donc, il y avait Gérard Monnier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a écrit Le Corbusier, que sais-je, tout le livre que vous trouverez dans les bonnes librairies, où il y a dans le rayon architecture d'Ombre Blanche. Si vous êtes près de nos commerçants locaux, évidemment sur Amazon aussi. Et il y a aussi un excellent livre qui est par un Américain qui s'appelle Fox Weber et qui est sur sur Le Corbusier. Et là, c'est une enquête extrêmement fouillée, extrêmement bien faite. Et qui se lit comme un roman, parce que sa vie est un roman. Alors évidemment, il y a Le Corbusier et sa vie amoureuse qui est assez complexe, et ses relations avec aussi ses contemporains, qui est une personnalité difficile et entière, et ça se lit comme un roman. Donc je vous recommande cet ouvrage, et ce sera donc ma conclusion pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne semaine et d'écouter la prochaine émission, qui sera sur Louis Kahn. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Aujourd'hui, la deuxième émission sur une brève histoire de l'architecture du XXe siècle. Je remercie Léo qui était à la technique, et je vous dis à la semaine prochaine.